Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, Mossy Tiffaine de Rocchini, Clément Salazar, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Suite donc de notre série consacrée à l'insécurité alimentaire, le mois dernier, les Nations Unies ont alerté sur la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Je reprends leurs propos, avec un risque de famine pour près de 20 millions de personnes pour les seuls Soudan du Sud, Somalie, Yémen et Nigeria. Hier, nous nous penchions sur les conflits politiques à l'origine de ces famines. Ce matin, nous allons nous pencher sur le rôle des humanitaires, mais aussi sur les limites de leur action. Du Biafra à la Somalie, l'action humanitaire en question, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je suis ici avec mes collègues pour attirer l'attention mondiale sur le fait qu'aujourd'hui, plus de 20 millions de personnes au Sud-Soudan, en Somalie, au Yémen, au nord-est Nigeria, connaissent la faim et sont confrontées à des niveaux dévastateurs d'insécurité alimentaire. Un des principaux obstacles aujourd'hui est le financement. Les opérations humanitaires dans ces quatre pays demandent plus de 5,6 milliards de dollars pour l'année en cours. Et nous avons besoin d'au moins 4,4 milliards de dollars avant fin mars pour éviter une catastrophe. J'appelle tous les membres de la communauté internationale à se mobiliser et à faire tout ce qui est en leur pouvoir, que ce soit en mobilisant des soutiens, exercer une pression politique sur les différentes parties du conflit ou en finançant des opérations humanitaires. Et j'appelle personnellement les parties du conflit à se plier au droit humanitaire international et à autoriser les travailleurs humanitaires à accéder aux populations en détresse. Sans accès, nous pouvons avoir des centaines de milliers de personnes qui pourraient mourir, même si nous avions les ressources nécessaires.
L'appel du secrétaire général des Nations Unies qu'on entendait là, Antonio Guterres, qui s'exprimait le 22 février dernier, n'est pas sans rappeler les problématiques auxquelles peuvent faire face les humanitaires sur le terrain. Ici, celui de l'accès aux populations en détresse qui bien souvent souffrent d'insécurité alimentaire à cause de l'isolement provoqué par les conflits. Sur place, les acteurs humanitaires sont confrontés à de nombreux obstacles politiques, sécuritaires, preuve que le financement n'est qu'une condition nécessaire mais non suffisante au sauvetage des populations. Alors, quelles sont les limites de l'action humanitaire en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire? Les humanitaires peuvent-ils, doivent-ils apporter leur aide, quels que soient les environnements? Dans quelle mesure peuvent-ils constituer peut-être un facteur de renforcement des logiques de conflit, de militarisation? Puis, l'aide alimentaire serait-elle une fausse solution qui empêcherait le développement des pays concernés? Nous évoquerons également la question de la sécurité. Ces dernières années, le secteur de la sécurité s'est considérablement renforcé dans les dispositifs de réponse humanitaire. Comment le comprendre? Quels sont les effets? Comment concilier la nécessité de protéger les acteurs humanitaires avec celle d'un accès direct au terrain? Voilà, certaines des questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons avec nous deux invités ici en plateau. D'abord, Philippe Riefmann, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Philippe Riefmann. Vous êtes avocat, ancien professeur et chercheur associé au département de sciences politiques de la Sorbonne. Vous co-dirigez, je crois, une plateforme de recherche humanitaire. Et puis, vous êtes auteur, entre autres, de ce livre, Une histoire de l'humanitaire, qui était paru à la découverte dans la collection Repères. À vos côtés, Michael Neumann, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, coordinateur et directeur de recherche du Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, le CRASH, de la Fondation MSF, auteur, vous, de plusieurs ouvrages, notamment le dernier en date, Secourir sans périr, sous-titré La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques, que vous avez co-dirigé avec Fabrice Weizmann. Je voudrais peut-être vous entendre l'un et l'autre, d'abord sur justement cet appel des Nations Unies, lancé il y a quelques jours, en particulier donc sur ces quatre pays, Nigeria, Somalie, Soudan du Sud et Yémen, évoquant la plus grave crise humanitaire depuis 1945. Alors, évidemment, la situation humanitaire est dramatique, on a déjà un petit peu parlé hier, mais on peut pas dire que ça soit vraiment nouveau. Ça fait des mois, pour pas dire des années, que ces pays sont dans des situations sécuritaires et humanitaires, parce que les deux vont souvent ensemble, extrêmement préoccupantes. Et que finalement on ne déclenche pas toujours cette action à la hauteur des défis que ça constitue. Est-ce qu'on n'est pas là, Philippe Riefmann, on va commencer avec vous, avec cet appel de détresse des Nations Unies, dans quelque chose qui ressemble à de la communication plutôt qu'à de l'action politique concrète? Que vous inspire, d'une certaine manière, cet alarmisme soudain?
Je crois que cet alarmisme dont vous parlez correspond aussi, il y a aussi une réalité de crise, notamment en Afrique de l'Est, qui qui est dû en partie d'ailleurs à une cause climatique qui est la suite du phénomène El Niño. Donc il y a une réalité de la crise, il y a une réalité qui est plus forte dans un pays comme le Sud-Soudan, particulièrement du fait du conflit, la guerre civile, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais qui touche toute l'Afrique de l'Est, mais qui touche à des degrés divers. Mais des pays comme le Kenya ou comme l'Éthiopie sont aussi touchés par ce phénomène de sécheresse particulièrement, et qui évidemment a un impact sur les récoltes. Mais ce qui est un peu plus problématique dans l'appel des Nations Unies, c'est que ça amalgame plusieurs pays dont la situation n'est pas la même. La Somalie, il y a de façon récurrente des crises alimentaires en Somalie depuis deux décennies, toutes les quelques années, qui sont une conjonction à la fois effectivement de du phénomène climatique et là aussi d'un phénomène de guerre civile, puisqu'il y a une lutte entre les Chebabs, entre les groupes islamistes et le gouvernement somalien, appuyé par la communauté internationale. Le Yémen, qui est de l'autre côté de la mer Rouge, n'est pas directement touché par l'impact du Niño, mais par contre là c'est incontestablement le conflit, la guerre au Yémen depuis deux ans, la guerre qui oppose donc une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite aux rebelles houthistes. Et puis il y a le nord Nigeria où ce n'est pas du tout un phénomène climatique, mais c'est purement un phénomène d'origine politique. Humaine. Donc il y a déjà une interrogation à avoir là-dessus, même si, encore une fois, ça ne doit pas occulter la réalité des crises.
Votre réflexion, Michael Neumann, sur cet appel des Nations Unies, il faut se souvenir qu'en 2011, l'ONU avait déclaré aussi un état de famine, mais peut-être un peu tard pour le coup, lorsque déjà plus de 100 000 personnes avaient péri par insécurité alimentaire, et peut-être que ce manque de mobilisation, en tout cas c'est ce que avaient dit les rapports, avait provoqué finalement une hausse brutale de la mortalité par famine en quelques semaines. Est-ce que finalement l'ONU, là, a eu peur de reproduire les erreurs de 2011 et donc a préféré anticiper?
Voilà, si vous regardez la manière avec laquelle les déclarations sont faites, année après année, vous apercevez que tous les ans, entre février et avril, les Nations Unies et un certain nombre d'organisations de secours sonnent l'alarme.
En 2011, c'était en juillet, hein.
Alors, en juillet, on avait en 2011, on avait affaire à une situation particulière en Somalie, qui était un petit peu différente dans la mesure où elle s'inscrivait à une époque différente de celle de la césure traditionnelle, la césure agricole que l'on connaît aujourd'hui, et donc tous les ans, cette période de césure, elle est particulièrement critique. Et effectivement, elle est renforcée, comme Philippe Riefmann le disait et Gutiérrez lui-même, par des facteurs de conflit qui sont eux-mêmes la cause de déplacements de population, qui fragilisent des populations déjà très précaires, qui conduisent effectivement à des augmentations de taux de malnutrition, voire à des épisodes de famine parfois localisés.
On reviendra tout à l'heure sur l'épisode de 2011 avec Lucile Grosjean, mais je reviens sur cet appel, celui-ci, assez alarmiste des Nations Unies, même si, évidemment, Philippe Riefmann a raison de rappeler qu'il y a une réalité humanitaire qui est bien là et que, évidemment, que la situation est extrêmement préoccupante. Mais sur le message lui-même, est-ce qu'il dit seulement ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'il faut apporter de l'aide à ces populations, ou est-ce qu'il dit aussi autre chose, peut-être quelques inquiétudes s'agissant des donateurs, par exemple? Alors, Michael Neumann.
Il dit effectivement qu'au lendemain de l'élection de Donald Trump notamment, un certain nombre de responsables d'agences de secours des Nations Unies et ailleurs sont très inquiets des niveaux de financement. Donald Trump annonce une politique extérieure isolationniste, a annoncé des réductions dans les budgets d'aide américains. Et les organisations des Nations Unies, notamment le HCR et le PAM, sont essentiellement financées par le gouvernement américain. Et on peut voir certainement, en tout cas moi j'y vois là une réaction à ces inquiétudes, renforcée par, je dirais, une nécessité traditionnelle de construire d'une certaine manière les crises médiatiquement, de les faire exister. La crise, elle existe aussi parce que les opérateurs de secours la font exister, expliquent être en mesure d'y répondre, soit techniquement, matériellement, logistiquement et financièrement. Et donc, on se retrouve dans une conjonction de ces différents phénomènes.
Philippe Riffman, je m'adresse d'une certaine manière à l'historien de l'humanitaire. Ces dernières années, il y a une thèse qui a beaucoup circulé, qui est celle selon laquelle finalement l'action humanitaire, disons d'urgence, et peut-être en particulier dans les problèmes d'insécurité alimentaire, peut avoir comme effet des effets contre-productifs sur le développement économique et social des pays concernés. Est-ce que c'est une critique qui vous semble justifiée, parfois en tout cas, ou est-ce qu'elle vous semble abusive, selon vous, Philippe Riffman?
Je crois qu'historiquement, elle l'a été à plusieurs reprises. Elle l'est moins aujourd'hui et surtout, il faut se garder de généraliser de ce point de vue. Là où elle peut être contre-productive, c'est si effectivement elle se poursuit pendant un temps indéterminé sans qu'on en passe à une phase qu'on appelle de développement ou de retour à des problématiques de long terme. Mais aujourd'hui, un des principes d'ailleurs des organisations humanitaires, quelles qu'elles soient, c'est d'être très attentive à ne pas avoir justement d'effets contre-productifs, à ne pas nuire. La thématique de ne pas nuire est une thématique importante. Donc incontestablement, dans certains cas, une aide, par exemple alimentaire massive, peut désorganiser des marchés. Des marchés locaux, elle peut porter atteinte aux revenus de producteurs, mais dont en matière de crise alimentaire, on est effectivement de plus en plus aujourd'hui confronté à des populations, comme le disait Michael Neumann, des populations qui sont des populations déplacées, ou des populations réfugiées qui n'ont plus évidemment accès à la terre et pour cause, et donc qui sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'aide internationale, et qui n'est évidemment pas souhaitable, mais qui correspond à une réalité. Et donc le problème, c'est de sortir ensuite de cette situation de dépendance.
Mais est-ce qu'on y arrive justement ? Est-ce qu'on arrive à mener à la fois les deux de front, c'est-à-dire l'action d'urgence quand il y a des problèmes de famine, des problèmes d'insécurité alimentaire, et aussi des actions de développement plus profond ? Parce que récemment, Peter Hellé, que vous connaissez peut-être, qui est un expert des crises alimentaires, qui est directeur d'un think tank du côté de Nairobi, expliquait dans les colonnes du Monde, je le cite, « Pour prévenir efficacement une famine, il faut réaliser un travail de long terme en amont, renforcer les sociétés civiles et les autorités locales, mettre en place des mécanismes à grande échelle d'assurance, créer des dispositifs de prévention efficaces. On voit bien que, de son point de vue, on ne peut pas apporter une réponse d'urgence sur des crises alimentaires, sur des crises, sur des famines, si on ne fait pas aussi en parallèle un travail plus profond de développement, Michael Neumann. C'est des limites que vous avez rencontrées, vous, sur le terrain.
Oui, je pense qu'il faut... Rappelons un peu les pays dont on parlait tout à l'heure et auxquels Antonio Guterres faisait référence dans sa déclaration. Le nord du Nigeria, le Yémen, le Sud-Soudan, par exemple, ne sont pas des pays, je dirais, dans lesquels la paix règne, dans lesquels des programmes de développement structurel de long terme peuvent facilement être mis en place. Et je rappelle par exemple que votre invité d'hier, Marc Lavigne, rappelait à propos du Sud-Soudan la responsabilité écrasante des dirigeants, des leaders politiques, que ce soit des dirigeants de Khartoum à l'époque de la guerre civile précédente, ou
mais aussi de la communauté internationale,
et des dirigeants sud-soudanais dans la guerre, et y compris effectivement d'un certain nombre d'autres pays. Donc il s'agit de voir aujourd'hui qu'un certain nombre de conditions pour la mise en place de ces programmes ne sont pas présentes, et qu'en leur absence, il est indispensable de fournir des secours. Alors, il ne s'agit pas de mettre sur le côté les questions de développement, mais de rappeler quand même que ces dernières années, je dirais malheureusement, la priorité donnée, en tout cas au développement, via un nouveau vocabulaire qui est apparu, celui de la résilience, a permis de faire passer l'idée que les secours étaient moins nécessaires et que le financement des opérations d'urgence devait être amoindri en faveur des projets de développement et de long terme. Ce qui nous a amené, par exemple, il y a 10 ans, à nous confronter frontalement à Médecins Sans Frontières un certain nombre d'organisations qui refusaient, qui s'opposaient à la mise en place de projets de distribution de produits thérapeutiques destinés aux enfants malnutris, par exemple.
Philippe Riffman, justement, sur cette difficulté à mettre en place une double réponse, j'ai l'impression que dans le monde humanitaire, mais vous allez me corriger si je me trompe, qu'il y a un certain consensus en réalité pour dire qu'il faut réorienter l'action dans certains secteurs, et peut-être en particulier dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, des secteurs d'ailleurs qui sont des secteurs non marchands et dont les bénéfices sont peut-être plus difficiles à transformer en rente à destination des groupes armés qui peuvent éventuellement les utiliser. Il y a ce consensus sur cette réorientation nécessaire dans le monde de l'humanitaire. J'ai l'impression, Philippe Riffman.
Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a en tout cas une forme de d'accord ou de consensus sur le fait qu'il faut aborder les problèmes dans leur complexité et de façon polyvalente. Mais pour rester dans la région, et précisément pour prolonger la réponse à votre question, Florent Delorme, si on prend l'Éthiopie qui est donc un pays de la région, donc qui n'est pas en guerre, même s'il y a quelques conflit localisé, mais globalement qui n'est pas en guerre, l'Éthiopie, justement, a entrepris, alors avec, faut analyser ça de façon très détaillée, parce qu'il y a aussi des stratégies gouvernementales éthiopiennes qui peuvent être critiquables, mais il y a une stratégie qui est menée depuis de longues années, précisément, de passage d'une aide humanitaire à l'aide de développement, et à laquelle contribue tout à fait toute une série d'organisations humanitaires, y compris des agences des Nations Unies. Et cette stratégie, globalement, elle ne marche pas trop mal, et en tout cas, elle a permis à l'Éthiopie, qui est le pays le plus peuplé de la région, de faire face, précisément, à une série de crises ces dernières années. Donc, le facteur humain qu'évoquait Michael, le facteur humain en matière de conflit, est un facteur tout à fait essentiel. Et si on prend le Sud-Soudan ou si on prend le Yémen est un pays qui importait avant la guerre civile, de toute façon, 80%. De son alimentation. Et un des problèmes clés actuellement du Yémen, c'est qu'il y a un blocus des ports ensuite du conflit, et que donc de toute façon l'aide ne peut pas arriver. Quand le Sud-Soudan, et ça a été évoqué hier, la guerre est là, le Sud-Soudan a des ressources en matière pétrolière qu'il peut pas utiliser.
Alors évidemment, dans ces situations de conflit, les humanitaires sont parfois pris pour cible. Vous parliez du Sud-Soudan, il y a un peu plus de deux semaines maintenant, il y a des travailleurs humanitaires, 6 qui ont été tués dans une embuscade, 3 Kenyans et 3 Sud-Soudanais qui travaillaient pour une ONG locale. On pense également, par exemple, à ces deux humanitaires assassinés en 2011 du côté de Mogadiscio, Philippe Avey et Andreas Karel Kelou.
En 2011, au moment où il y a eu l'annonce de la famine, donc MSF avait déployé des gros moyens pour assister la population somalienne. En fin 2011, nos deux collègues qui se trouvaient à Mogadiscio pour apporter assistance à cette population ont été froidement abattus. Les besoins importants nous ont poussés à accepter des risques inégalés et des compromis importants pour apporter assistance à la population malgré notre principe de neutralité et d'indépendance. On avait l'interdiction d'avoir accès à certaines régions du pays, alors que la population se trouvait sans accès aux soins. On était contraint par rapport à notre sécurité de se déplacer en escorte armée, alors que ça ne faisait pas partie de notre pratique. C'est d'ailleurs le seul pays où MSF utilisait les escortes armées.
Voilà, témoignage du docteur Salah Issoufou, qui était le chef de mission MSF en Somalie de 2011 à 2013. Je voudrais qu'on évoque la question de la gestion des risques, Michael Neumann. Vous écrivez dans la préface de votre ouvrage, Secourir sans périr, je vous cite, confronté dans les années récentes en Syrie, en RCA, en RDC et en Somalie notamment, à la mort violente et à l'enlèvement de plusieurs membres de son personnel, MSF est gagné par l'idée selon laquelle son environnement de travail serait devenu plus dangereux. Il y a plusieurs questions là-dedans. D'abord, comment effectivement les humanitaires se sont adaptés à ce nouveau régime de risque? Et puis, on aura noté que vous utilisez le conditionnel, donc peut-être finalement que les humanitaires ne sont pas plus exposés à la menace qu'auparavant, mais que c'est la perception finalement de cette menace qui est plus prégnante. Michael Neumann.
Voilà, vous relevez là un des exemples de slogans déclinistes qui est à court dans le secteur humanitaire. Alors il y a quelques années, on nous expliquait que on ne pouvait plus travailler parce que l'espace humanitaire se réduisait, et puis plus récemment que la sécurité humanitaire s'était détériorée à un tel point qu'il était devenu effectivement là encore une fois impossible de travailler. Le fait est que l'insécurité est réelle, que vous l'avez rappelé, les organisations humanitaires sont victimes d'incidents parfois très graves, que MSF ne fait pas exception. Salah le rappelait dans son interview. Je rappelle quand même que mes deux collègues assassinés en 2011 l'ont été par un autre de leurs collègues, un employé somalien, pour des raisons liées finalement à des relations entre employés et employeurs, et donc ayant peu à voir avec la violence politique ayant cours dans le pays. Donc l'insécurité, elle est réelle, et puis on a connu effectivement ces 10 dernières années une augmentation réelle du nombre de kidnappings, notamment d'occidentaux, et puis de la durée des kidnappings. Donc des raisons de s'alarmer, il y en a. Pour autant, ce que ce discours alarmiste passe sous silence, c'est l'augmentation de l'exposition des humanitaires. Pour deux raisons. D'abord parce que le secteur humanitaire a considérablement augmenté, je dirais, son empreinte ces dernières années. C'est 500 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur. C'est 20 milliards de dollars l'année dernière, ou un peu plus, consacrés à l'aide d'urgence.
Plus de présence, plus de moyens, donc plus d'incidents, d'accidents dramatiques.
Je dirais que mécaniquement, le nombre d'attaques, d'incidents suit la présence. Et puis, il y a un autre facteur derrière cette augmentation. Celle-là liée au rapprochement des humanitaires du cœur des conflits. Dans les années 80 et jusqu'au tout début des années 90, au tournant de la guerre froide, eh bien, les humanitaires, MSF par exemple, et les agences des Nations Unies, le HCR, travaillaient en périphérie des conflits, dans les camps de réfugiés. Finalement, des zones relativement préservées. Alors, ça n'empêchait pas les incidents, et pour avoir fait un petit peu l'archéologie et l'histoire, donc, de l'insécurité, de la sécurité à MSF, on peut témoigner de l'existence d'incidents de sécurité dès le tout début des années 80. Mais ce qui se passe à partir des années 90, c'est que les humanitaires à MSF se retrouvent directement sous le feu, va travailler dans les conflits, et dans les années 90, on est abasourdi par le nombre de conflits très violents auxquels sont confrontés les humanitaires. Et je rappelle la Bosnie, la Somalie des années 90, la crise des Grands Lacs en Afrique, la Tchétchénie et d'autres, où les incidents sont très nombreux.
On y reviendra justement sur cette décennie 90, parce que Philippe Riffman a aussi tout un chapitre consacré à cette période-là, qui est un vrai moment de remise en question a été de l'action humanitaire. Mais Philippe Riffman, sur cette question de la gestion des risques et sur ce que ça a modifié dans l'action humanitaire. Parce que l'une des choses qu'on constate, par exemple, c'est que pour éviter d'être trop exposé au danger, on va peut-être d'une certaine manière s'enfermer progressivement dans des espaces clos, sécurisés, mais de fait un peu en marge des populations auxquelles on est censé prêter assistance. Il y a une forme de bunkerisation. Je ne sais plus lequel de vous deux utilise cette expression, peut-être que c'est vous, Michael Neumann, une forme de bunkerisation des acteurs de l'aide. Philippe Riffman.
Oui, c'est un véritable risque en même temps. C'est-à-dire, il faut. Michael évoquait, à juste titre, la question de la perception. Il y a aussi. Les personnels humanitaires savent très bien qu'ils exercent une activité à risque et à haut risque en même temps. Ils ne sont pas là pour sacrifier leur vie. Donc, ou pour passer de longs mois ou de longues années en détention, en priant de tâches. Donc, il y a cette question de la perception n'est pas négligeable. Il se joue aussi d'ailleurs toute une série d'enjeux, d'ailleurs, ensuite assurantiels, juridiques, de responsabilité d'employeur, qui peuvent pas être complètement non plus exclus. Donc, il y a ce premier élément. Le second élément, je suis pas tout à fait en accord avec Michael Neumann sur le fait que les humanitaires travaillent en périphérie jusqu'aux années 90. Ça dépendait des conflits. En Afghanistan, par exemple, au moment de la guerre contre les Moudjahidines afghans et les Et les Soviétiques, un certain nombre d'entre eux, travaillaient à l'intérieur de territoires contrôlés par les rebelles. Donc ils étaient directement exposés. Simplement, moi je crois qu'il y a un autre phénomène qui joue aussi aujourd'hui, c'est que il y a peut-être moins de conflits, mais il y a des conflits qui sont beaucoup plus... on est beaucoup plus revenu à un système de totalisation de la guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de front, il n'y a plus d'arrière, il n'y a plus de civils, il n'y a plus de combattants. Du moment que vous êtes dans le camp d'en face, vous êtes dans le camp ennemi. Par conséquent, on l'a vu en Syrie, on le voit au Yémen aussi, mais on le voit aussi au Sud-Soudan. Et donc les humanitaires sont directement à ce moment-là sous le feu parce que les conflits ont changé de nature également.
Sans compter que peut-être qu'ils n'ont pas toujours la neutralité qu'il serait nécessaire d'avoir dans ce genre d'action. Mais
c'est ce qu'on leur reproche, mais souvent tout à fait à tort. Quand les hôpitaux de Médecins Sans Frontières ont été bombardés au Yémen ou en Afghanistan, ils étaient bien impartiaux, simplement, ils ne sont pas perçus comme tels obligatoirement par les protagonistes du conflit.
On va revenir sur cette question de la neutralité qui est très importante. Évidemment, on est dans cette semaine consacrée à la fin, le grand retour aujourd'hui du Biafra à la Somalie. L'action humanitaire en question, Michael Neumann et Philippe Riffman sont nos invités. On va accueillir une nouvelle invitée pour reparler un petit peu de cette Somalie et de cette famine de 2011 qu'on a évoquée tout à l'heure.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
J'avais peur. Ils nous tuaient. On avait peur d'être jugés. Ils nous prenaient les jeunes garçons. Les animaux qui n'étaient pas morts de la sécheresse, ils les prenaient. Les humanitaires qui veulent nous aider, ils les empêchent de venir. Comment voulez-vous qu'on vive dans ces conditions? Ils nous ont donné du riz sec et des médicaments. On n'a rien d'autre. On a de l'eau. Les médicaments, ils ont commencé à nous en donner il y a 2 jours d'ailleurs. Rien n'a changé. Il n'y a pas de tente. Il n'y a pas de bâche. Parfois, il y a du riz. Parfois, il n'y a rien.
Voilà, témoignage d'une réfugiée d'un camp près de Mogadiscio en 2011, extrait d'un documentaire France 24. Entre 2010 et 2012, une grave crise alimentaire touche la Somalie. Selon une étude financée à l'époque par les Nations Unies et l'Agence américaine pour le développement, 1 enfant sur 10 de moins de 5 ans y avait perdu la vie. On parle de 260 000 Somaliens décédés entre octobre 2010 et avril 2012 lors de cette crise alimentaire. En juillet 2011, l'état de famine est déclaré dans 2 régions de Somalie, puis ensuite étendu au reste du pays les mois suivants. Bonjour Lucille Grosjean.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes référente plaidoyer humanitaire d'Action contre la faim. Vous étiez justement présente en 2011 à l'époque en Somalie. Février 2012, l'ONU lève l'état de famine. 5 ans plus tard, la Somalie est à nouveau dans les radars de l'ONU pour cause de famine. C'est évidemment l'une des zones les plus vulnérables sur le plan alimentaire. Il y a eu évidemment ces grandes sécheresses qui ont régulièrement déclenché des catastrophes. 72, 84, 85, 91, 92, 2011, 2012 et puis à nouveau là. Il faut aussi rappeler évidemment pour le cas de la Somalie qu'en ce moment, ce pays est aujourd'hui, en tout cas une grande partie du territoire échappe au contrôle du gouvernement avec cette organisation qu'on évoquait tout à l'heure avec Philippe Riffman d'Al-Shabaab qui refuse régulièrement l'accès de la zone aux humanitaires. Mais on a quand même le sentiment que la Somalie est le théâtre très régulier de crises alimentaires et qu'au-delà des facteurs conjoncturels, on a aussi des facteurs structurels qui provoquent cette répétition des famines, Lucille Grosjean.
Oui, tout à fait. Vous l'avez bien expliqué en introduction, hein, le fait que qu'il n'est pas réellement d'État somalien capable de mettre en place des services publics un peu dans tout le pays, et notamment dans les zones rurales et les d'identification. C'est vraiment dans le cas d'un État failli en Somalie. Le conflit qui est toujours en cours, qui provoque beaucoup de déplacements de population, des phénomènes d'éviction dans les grandes villes. Beaucoup de personnes viennent se déplacer, rejoindre les grandes villes et sont forcées de quitter parfois les lieux qu'ils ont occupés et les phénomènes climatiques qui reviennent régulièrement sur la Somalie.
Vous parlez d'État failli, Lucille Grosjean. En mai 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies crée une mission, la MANUSOM, chargée de fournir un appui au gouvernement somalien, je cite, sous forme d'orientation et de conseils stratégiques en matière de consolidation de la paix et d'édification de l'État. J'aimerais savoir peut-être ce qu'il y a derrière cette formule, nous dire aussi quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette mission et peut-être en particulier ses effets sur l'action des humanitaires sur le terrain, Lucille Grosjean.
L'effet a été très important pour les humanitaires. En gros, cette mission des Nations Unies avait plusieurs volets. Un volet politique, vraiment d'aider l'État somalien à se mettre en place. Un volet plus militaire, d'aider dans la lutte contre les groupes armés. Et un volet humanitaire pour aider directement la population. Le problème, c'est que ces trois volets se retrouvaient ensemble, chapeautés par les Nations Unies. Et peu à peu, ce qu'on a vu, c'est que ce volet humanitaire s'est retrouvé à être mis au service des volets politiques, voire militaires. L'humanitaire se retrouvait un peu assujetti au volet politique, ce qui a entraîné un fort problème de neutralité et d'impartialité, au moins en termes de perception. Il y avait dans les résolutions, par exemple, du Conseil de sécurité, un appel très clair des Nations Unies à lutter contre des groupes dits terroristes et d'apporter le plus vite possible une aide humanitaire dans les zones qui avaient été reprises aux groupes armés. Cette volonté d'assujettir un peu l'humanitaire aux politiques a entraîné cette perception par les groupes armés que les humanitaires, organisations humanitaires des Nations Unies et par extension des ONG, était là pour lutter contre ces groupes armés.
J'entends très bien, Lucile Grosjean. J'entends parfaitement la critique que vous formulez, c'est-à-dire celle selon laquelle, finalement, cette mission onusienne a manqué de neutralité politique. Mais finalement, comment faire autrement? Comment installer une mission des Nations Unies qui ne soit pas de facto une forme de soutien au gouvernement en place? Même s'il s'agit d'un État failli, vous nous l'avez dit, mais quand même. Comment faire? C'est quoi les conditions de cette neutralité politique qui semble nécessaire pour une bonne action humanitaire d'urgence?
Ce qui est en tout cas important pour nous en tant qu'humanitaires, et si on veut pouvoir intervenir partout, c'est comment cette distinction entre le politique et l'humanitaire soit respectée. Que les Nations Unies, que certaines organisations des Nations Unies soient là pour apporter un soutien à des administrations publiques et politiques, pourquoi pas, mais il faut juste que l'action humanitaire en tant que telle reste séparée et distincte de cette action politique et militaire, sinon on ne pourra plus avoir accès à toutes les zones. Nous, le but, globalement, en tant qu'organisation humanitaire, notamment d'urgence, c'est de pouvoir intervenir de tous les côtés d'un conflit. À partir du moment où on est dans un pays en conflit, dans une zone de conflit, il faut qu'on puisse négocier un accès avec toutes les parties au conflit.
Ça veut dire que ACF, par exemple, Action contre la faim, a cherché ou a passé des accords justement avec les Chebabs somaliens pour avoir accès à des zones?
Bien sûr. Alors c'est moins le cas aujourd'hui parce que justement, comme à peu près tous les acteurs humanitaires, en 2011-2012, les Chebabs ont banni toutes les organisations humanitaires de leur zone du fait de cette perception de manque de neutralité. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mal à intervenir dans ces zones contrôlées par les groupes armés, mais on aimerait bien y intervenir davantage, mais c'est extrêmement difficile du fait de cette perception de manque de neutralité.
Vous restez avec nous, Lucile Grosjean, Michael Neumann, Philippe Riffman. Je voudrais vous entendre peut-être sur cette question de la neutralité, et en particulier de la neutralité nécessaire, mais qui n'est pas effective, de cette mission onusienne dans le cas de la Somalie. Michael Neumann.
Oui, alors cette question de la confusion politico-militaro-humanitaire, elle est récurrente au sein du secteur depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Le problème que ce discours porte est qu'il minimise la responsabilité des organisations dans la conquête eux-mêmes de leur espace de travail, dans leur capacité à mener des négociations. C'est-à-dire que quand MSF négocie avec les groupes armés, elle ne le fait pas avec les Nations Unies. Donc la distinction, elle est de la responsabilité de l'organisation de s'assurer qu'effectivement, elle ne se fait pas le véhicule de l'idéologie de la paix libérale des Nations Unies ou des puissances occidentales, comme ça a pu être le cas effectivement en Afghanistan ou en Somalie. En Somalie, la raison pour laquelle nous ne travaillons plus aujourd'hui, c'est des incidents de sécurité importants, un kidnapping auquel les Chebabs sont effectivement liés. Je ne pense pas que le kidnapping dont on parle là soit lié à des problèmes de perception et à des problèmes de neutralité. Je pense au contraire que on a vécu un moment en Somalie en 2011-2012 où un certain nombre de forces politico-militaires et les Chebabs y compris n'ont plus vu d'intérêt à laisser travailler les humanitaires. Et on a vu ce renversement s'opérer de manière très intéressante et éclairante en Afghanistan. En Afghanistan, en juin 2004, cinq collègues de Médecins Sans Frontières sont assassinés dans la province de Badriz. Les talibans revendiquent cet assassinat. Bon, il se trouve que probablement ils n'en sont pas responsables, mais ils le revendiquent en expliquant que les humanitaires, MSF en particulier, sont des agents occidentaux. Et puis, quelques années plus tard, autour de 2000-2009, MSF est de nouveau en mesure d'opérer en Afghanistan, reprend contact avec les talibans et met en place des projets d'assistance qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi ce revirement? Est-ce que c'est parce que MSF est devenue plus neutre, plus impartiale, plus indépendante entre 2004 et 2008-2009? La réponse, elle est non. La réponse, elle est plutôt que les talibans ont finalement vu un intérêt à laisser travailler MSF et d'autres organisations de secours qui, à ce moment-là, ont également pu réinvestir le terrain en Afghanistan, notamment le CICR, alors qu'en 2004-2005, ce groupe était dans une logique, je dirais, de chaos destinée à semer la terreur et à mettre fin à toute tentative de paix, de stabilisation et de secours dans le pays. Donc on a affaire à des logiques militaires des groupes armés avec lesquels il faut savoir négocier, qu'il faut analyser et comprendre pour éviter d'avoir recours à des slogans un petit peu simplifiés.
Quitte finalement à faire aussi de la politique, parce que d'une certaine manière, ça fait aussi...
Évidemment.
Philippe Riffman, sur cette question de la neutralité, du mélange d'une certaine manière entre l'action humanitaire et l'action politique, il y a le cas de l'Afghanistan, il y a le cas de la Somalie, on peut aussi penser à tous ces débats qu'il y a eu ces derniers mois pour savoir s'il fallait ou pas, s'il faut ou pas discuter par exemple avec Daesh sur les questions humanitaires, les uns considérant que en tant que partie au conflit, il faut dialoguer et qu'il est prioritaire d'apporter de l'aide aux populations, alors que d'autres considère qu'aucun dialogue ne doit être établi, surtout parce qu'une intervention humanitaire peut avoir comme effet justement de renforcer précisément la présence des djihadistes. Comment régler ce dilemme? Et finalement, depuis quand est-ce qu'il existe dans le monde de l'humanitaire? Vous avez un exemple qui est très intéressant, je crois, dans votre livre, Philippe Riffman, qui est d'Oxfam. L'Oxfam qui est en 1942, qui est l'une des plus grandes ONG internationales aujourd'hui, qui a été créée en 1942 par une poignée de citoyens et d'étudiants anglais et qui avaient décidé de venir en aide à l'époque aux Grecs qui souffraient de l'embargo décidé par le gouvernement anglais en raison de l'occupation nazie, et cette ONG avait quand même décidé d'envoyer des vivres par bateau brisant le blocus anglais pour répondre finalement à cette nécessité de lutter contre la famine. Philippe Riffman.
Oui, je crois, Florian, que le problème de l'impartialité, enfin, moi, je préfère employer le terme impartialité que le terme neutralité. Le terme neutralité est un terme important, mais l'impartialité est un concept plus vaste. C'est depuis l'origine. Depuis l'origine, on impute très fréquemment aux agences militaires une sorte d'agenda caché, ou enfin, ceux qui n'y sont pas très favorables, ou certains acteurs des conflits, leur imputent un agenda caché, donc un agenda de nature politique, ou un agenda de nature d'aide à une des parties en présence. Et l'exemple à la création d'Oxfam que vous évoquiez, Florian Delorme, est très intéressant parce que la réponse du gouvernement britannique à l'époque aux demandes des créateurs d'Oxfam de lever cet embargo, la cause première de la situation en Grèce à l'époque, de la famine qui a tué 500 000 personnes au début de l'occupation nazie en Grèce, et l'occupation. Et le fait que la prédation opérée par l'occupant, mais l'embargo de l'époque, le blocus l'a augmenté. Et effectivement, la réponse du gouvernement britannique à la demande d'allègement était l'aide que vous allez apporter avec un régime totalitaire va être confisquée et appréhendée par l'occupant. Donc, vous allez renforcer l'occupant. Et la réponse qui a été faite ils n'avaient pas à l'époque réfléchi sur l'humanitaire. Ils démarraient en quelque sorte. Des créateurs d'Oxfam a été de dire, mais même s'il n'arrive que 10 ou 15%, ça sera toujours cela au profit de la population et on pourra essayer de négocier localement aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui se pose pratiquement dans toutes les situations.
Merci beaucoup en tout cas à Lucile Grosjean d'avoir été avec nous. Je rappelle, référente plaidoyer humanitaire d'Action contre la faim. Le temps tourne malheureusement. Je voudrais qu'on avance et peut-être qu'on avance en particulier pour aborder la question du droit international humanitaire. Mais juste avant, je propose d'entendre une voix que vous connaissez probablement, celle de Mario Betati, promoteur et défenseur du droit d'ingérence, de responsabilité de protéger, qu'il a conceptualisé. Il a beaucoup contribuer à faire avancer la réflexion sur ce droit humanitaire, sur ses évolutions. Il est décédé le 23 mars dernier. Il était juriste de formation. Il s'était retrouvé projeté dans ce monde des Nations Unies à la fin des années 80, alors qu'il est chargé de mission auprès de Bernard Kouchner à l'époque, qui est secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire. Il était passé justement à ce même micro. C'était en 2012, en mars 2012. Et il nous raconte justement ce moment où il arrive dans les Nations Unies. Écoutez.
J'ai découvert que ce que j'enseignais à mes étudiants depuis des années était faux. À savoir que l'organe principal des Nations Unies, c'est pas l'Assemblée Générale, c'est pas le Conseil de Sécurité, c'est pas la Cour de Justice, c'est la cafétéria. Car c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, vous négociez avec les États un à un en prenant un café. Quand ils sont 183, je vous dis pas que 183 cafés dans quel état vous êtes à la sortie. Enfin, peu importe. On a fait voter ce texte et ça a été uniquement destiné aux secouristes, aux médecins, libre accès aux victimes. Et quand je reviens de New York en ayant obtenu le vote, je me précipite chez Kouchner et on s'embrasse, tout le monde était content, formidable, bravo la France, parce que le New York Times avait fait un titre sur toute la page. Vos confrères américains à cet égard ont pigé tout de suite l'importance de la chose. Et j'arrive là-bas, dans le bureau de Kouchner. Et j'ai dit, bon, écoute, je vais me coucher. Moi, ça fait 3 semaines que je négocie en prenant des cafés. J'ai pas dormi. Il me dit, non, tu restes là. Il y a une délégation soviétique qui vient me voir. Je sais pas pourquoi. C'était incroyable. Décembre 88. Je dis, bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Et on se dit, on sait pas. Les types rentrent. Il y avait un vice-ministre soviétique, 4 diplomates, quelques agents du KGB sûrement. Et les types nous disent, voilà, nous venons d'avoir en Arménie soviétique le plus grand tremblement de terre de l'histoire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dit le ministre à Kouchner, vous connaissez le travail, ce qu'il faut faire, allez-y. Donc Kouchner commence à s'agiter au téléphone, il appelle les SAMU, les pompiers, les chiens renifleurs qui vont chercher les gens dans les décombres. Et vers 13h, tout était négocié, tout était prêt. Et Kouchner, moi j'avais pas dit un mot parce que je connais rien dans l'organisation des secours. Et Kouchner se tourne vers moi et me dit, qu'est-ce qu'en pense le juriste? Je dis, monsieur le ministre, rien de particulier, je veux juste poser une question, parce que vous nous avez expliqué qu'en matière de tremblement de terre, on a 24 heures pour sauver les gens. Au-delà, c'est même pas la peine d'y aller, ils sont tous morts. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les visas? Parce qu'autant que je me souvienne, même avec l'intourist, il faut 15 jours pour avoir un visa pour la Russie. Donc, ça servira à rien. Et j'avais même pas fini ma phrase que le vice-ministre soviétique dit « pas de visa ». La France a fait voter hier résolution aux Nations Unies. L'Union soviétique sera premier pays à l'appliquer. Et en effet, les secouristes français sont entrés librement sur le territoire de l'Arménie.
Mario Betati racontant l'intervention des humanitaires occidentaux lors de ce tremblement de terre en Arménie en 1988. Mario Betati, décédé le 23 mars dernier. Philippe Riffman, vous parlez de cette intervention justement en Arménie en 1988 et vous dites que les conséquences de cette intervention, elles ont été en fait beaucoup plus importantes que ce qu'on pouvait l'entrevoir à l'époque. C'est ce que vous racontez dans votre livre.
Oui, je crois que Mario Betati, qui malheureusement effectivement décédé il y a quelques semaines, le dit très bien, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que les visas soient accordés, mais on est dans une configuration politique assez particulière. C'était la perestroïka, c'était Gorbatchev, Et Gorbatchev a vu là une manière probablement de renforcer sa position à la fois au plan international et au plan intérieur. Il a probablement pas maîtrisé les conséquences. Il a pensé que les organes du pouvoir soviétique de l'époque seraient à même de contrôler la venue des humanitaires. Or, ils n'ont pas été en mesure de le faire, et ça a probablement été un des facteurs qui ont aussi contribué à la chute de l'URSS quelques années après. En tout cas, cette ouverture était une première depuis 1922, depuis la grande famine post-guerre civile en Union soviétique, où le gouvernement soviétique avait effectivement accordé l'accès à des organisations militaires étrangères pour le refermer ensuite pendant 50 ans.
Et peut-être aussi un glissement vers une action humanitaire plus politique, parce qu'il y a évidemment toutes ces années 90 avec la Bosnie où il y a de facto une forme de confusion entre l'action humanitaire et l'action politique. Alors on se souvient évidemment de ce geste de François Mitterrand qui débarque à Sarajevo, qui permet la réouverture de l'aéroport et donc l'arrivée des secours, qui est évidemment un réel succès politique et un réel succès humanitaire, mais qui en même temps crée un mélange des genres. On a la guerre, évidemment le Kosovo, que le Premier ministre britannique de l'époque, Tony Blair, avait qualifié de guerre humanitaire. C'est vrai que ces années 90, elles n'ont pas été très bonnes sur le plan de la neutralité, ou en tout cas de l'impartialité, pour reprendre plutôt votre terme de tout à l'heure, Philippe Riefmann.
Oui, en tout cas, c'était une décennie des remises en cause. C'est-à-dire qu'à la fois, l'action humanitaire a été extrêmement importante durant cette période, et en même temps, ce mélange des genres que Michael Neumann évoquait tout à l'heure, que vous venez d'évoquer, a montré toute son ampleur, particulièrement parce que il y avait aussi de nouveaux acteurs. Jusque-là, ça n'était que des donc gouvernementaux, ONG ou CICR, mouvement Croix-Rouge, et à partir des 90, ce sont les agences des Nations Unies et les États également. Comme acteur.
Michael Neumann, je voudrais qu'on finisse avec cette question du droit international humanitaire. Il y a cette notion de droit d'ingérence qui est introduite par résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1988. On consacre ensuite une nouvelle dénomination en 2005, la responsabilité de protéger, que vous appelez dans le milieu la R2P. Peut-être quelle nuance d'ailleurs, quelle différence entre droit d'ingérence et responsabilité de protéger? Qu'est-ce que ça révèle selon vous? Des tensions entre les différents États sur la manière dont il convient d'agir ou de ne pas agir. Et puis surtout, le point que je voudrais, sur lequel je voudrais vous entendre, Michael Neumann, c'est qu'est-ce que ces évolutions dans le droit international humanitaire ont eu comme impact dans votre action, celle de MSF, mais dans l'action humanitaire en général,
Michael Neumann. Avant de répondre à votre question, je vais revenir de manière très brève sur cette question de l'instrumentalisation de l'humanitaire par la politique. Et c'est l'intervention de Philippe Riefmann et son détour par la famine de 1922 qui m'y fait penser, parce que on voit là que historiquement, l'aide, elle est de manière inhérente politique, et son utilisation est politique, et qu'elle l'était par Lénine en 1922, elle est devenue également par Gorbatchev en 1988, avec ou sans droit et devoir d'ingérence, on peut penser que l'Union soviétique aurait accordé ses visas dans la configuration géopolitique dans laquelle nous étions alors. Alors pour en revenir à la R2P et au devoir d'ingérence, le devoir d'ingérence et la R2P en particulier sont finalement les enfants des crises majeures rencontrées par le monde à la fin des années 80 et au milieu des années 90. En particulier ce qu'on peut appeler la faillite d'un certain nombre d'États à agir au moment du génocide au Rwanda, et une volonté de se racheter un petit peu à peu de frais. On voit aujourd'hui avec le recul que cette R2P qui prévoit une possibilité légale d'intervention par les pays sur accord des conseils de sécurité des Nations Unies en cas de manquement grave d'un pays à protéger sa propre population a fait long feu finalement. Le concept a été peu utilisé et avec des succès très mitigés pour utiliser un euphémisme, que ce soit dans le cas de la Côte d'Ivoire ou plus récemment dans le cas du conflit libyen, où on voit aujourd'hui les effets désastreux de cette intervention. Donc je dirais que pour nous, la rhétorique a pu effectivement avoir des conséquences au sens où elle a alimenté cette utilisation de l'humanitaire pour déclencher des guerres justes. Au niveau concret, finalement, elle ne fait que rappeler que le déclenchement de conflits n'est que le résultat de rapports de force plus ou moins favorables.
Vous êtes aussi réservé, Philippe Riffman, quant au bilan du droit international humanitaire en général, de la responsabilité de protéger en particulier?
Je crois que la responsabilité de protéger est... Michael Neumann l'a bien dit, est une tentative de faire entrer dans un système juridique des questions politiques, et qu'elle a pour l'instant montré son échec parce que les Nations Unies, c'est un organe politique avant tout, et que les oppositions politiques au sein du Conseil de sécurité, on l'a très bien vu, on le voit pratiquement quotidiennement à propos de la Syrie, sont constants. Et que le droit international humanitaire, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est-à-dire c'est le respect d'un certain nombre de principes internationaux qui sont dans des traités, des conventions. On ne massacre pas les prisonniers, on doit laisser l'accès aux blessés, aux organisations humanitaires. Et que la volonté d'y introduire cette dimension avec la responsabilité de protéger part effectivement d'une analyse qui, sur un plan intellectuel, peut être tout à fait
recevable,
tout à fait fondée, mais qui, sur le plan pratique, montre ses limites. Et pour donner un exemple...
Mais est-ce que c'est le concept, pardon de vous couper, mais est-ce que c'est le concept même qui pose problème, ou est-ce que finalement, c'est l'idée selon laquelle le droit en général, le droit international, ne peut rien pour améliorer finalement l'action humanitaire?
Il peut, si on l'applique. Et le problème, c'est que c'est du droit international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, les Nations Unies ne sont pas un gouvernement mondial. C'est une assemblée, c'est une réunion d'États. C'est une organisation qui rassemble les États. Et que les États n'abandonnent pas leur souveraineté, ils n'abandonnent pas un certain nombre de prérogatives. Et que le droit international, comme d'ailleurs de façon plus large l'action humanitaire, au-delà du droit international humanitaire, elle peut se dérouler que s'il y a un minimum de consensus. S'il n'y a pas de consensus entre les protagonistes dans les conflits, États et ou groupes armés, et à ce moment-là, il est beaucoup plus difficile et d'appliquer le droit et de réaliser des actions militaires.
Michael Neumann, en quelques mots, on arrive presque au terme de l'émission.
Je dirais que malgré les difficultés quotidiennes du droit international humanitaire et du respect des conventions de Genève, finalement, la plus grande victoire de ce droit, c'est d'avoir acquis une légitimité quasi unanime et universelle. Tous les belligérants, y compris les plus vicieux, s'en réclament aujourd'hui. Personne ne revendique la violation des conventions de Genève, chacun tendant à rejeter la faute sur l'autre. Donc il y a bien effectivement des soucis, mais pas de cet ordre-là.
Merci beaucoup, Michael Neumann, Philippe Riffman. Je rappellerai deux de vos ouvrages. Michael Neumann, Secourir sans périr, la sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques, était paru aux éditions du CNRS que vous avez co-dirigé avec Fabrice Weissmann. On mettra bien sûr les références sur la page de Culture Monde. Philippe Riffman, Une histoire de l'humanitaire, qui est une nouvelle édition, une réédition, il y en a eu plusieurs, paru à la découverte dans la collection Repères. Un grand merci à l'un et à l'autre de nous avoir éclairés aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver le monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian et bon retour.
Merci beaucoup Brice qui va nous parler de clivage politique, clivage droite-gauche. Dans beaucoup de nos démocraties, ce clivage est en train de céder la place à d'autres différenciations. Europhile versus europhobe, ouverture-fermeture, libéralisme-autoritarisme. Qu'est-ce que vous nous proposez de nouveau,
Brice? L'essayiste britannique David Goodhart suggère un nouveau clivage politique. À quel camp appartenez-vous? À celui des gens de n'importe où ou au peuple de quelque part? Les premiers sont bien dotés en capital culturel et en diplôme, donnant accès aux emplois cotés sur le marché du travail, disposant de réseaux relationnels acquis dans quelques grandes écoles françaises ou une prestigieuse université anglo-saxonne, ils disposent d'une identité portative. C'est dire qu'ils sont à leur aise partout dans le monde, ils valorisent la réussite professionnelle et l'auto-réalisation, ils sont favorables à la mondialisation et leur valeur préférée, c'est l'ouverture. Optimistes, curieux d'autrui et tolérants par principe, ils sont spontanément multiculturalistes. Le peuple de quelque part, lui, est plus enraciné. Ses membres sont rarement passés par l'enseignement supérieur, ils sont assignés à une identité prescrite. La mondialisation pour eux, cela signifie que les usines s'en vont et que les immigrés arrivent. La dignité qui s'attachait à la condition ouvrière est perdue. L'économie du savoir et les emplois qualifiés que promettait l'agenda de Lisbonne, ce n'était pas pour eux. Ils se considèrent comme les laissés pour compte de l'intégration européenne. Il y a de fortes chances qu'ils habitent une petite ville proche du domicile de leurs parents, car ils ont le sens de la communauté et de la famille. Ils sont culturellement conservateurs. Alors David Goodhart a déclenché bien des débats en Grande-Bretagne avec la publication de son essai intitulé « The Road to Somewhere, The Populist Revolt and the Future of Politics ». La route vers quelque part, révolte populiste et avenir des politiques populistes. Et il propose, si l'on veut comprendre quelque chose au redéploiement en cours de la vie politique dans nos vieilles démocraties, de remplacer en effet l'axe gauche-droite par le clivage « anywhere, somewhere », que j'ai traduit donc par « les gens de n'importe où et les peuples, le peuple de quelque part », car pour lui, les oppositions basées sur des critères purement socio-économiques sont devenues insuffisantes. Il faut leur ajouter des éléments culturels. Les politiques de l'identité qu'avait mis en avant le New Labour à l'époque de Tony Blair, identité ethnique, identité de genre, identité religieuse, font désormais partie du paysage. Elles ont définitivement bousculé une société britannique autrefois structurée par les appartenances de classe.
Peut-être qu'on peut être gens de n'importe où et peuple de quelque part. Peut-être qu'on peut être un peu des Debris. Mais en tout cas, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus David Goodhart, l'auteur de cet essai?
Alors David Goodhart a longtemps joué un rôle très important dans le monde intellectuel britannique en tant que directeur de la revue Prospect, un mensuel de réflexion politique et culturelle sans équivalent chez nous, qu'il avait créé en 1995 et dont il a tenu les rênes jusqu'en 2010. Prospect, que j'ai lu toute ma vie, est devenu aussitôt après le départ de son fondateur beaucoup moins intéressant. Je crois qu'on peut dire que le magazine Prospect, tout en veillant à ne pas s'aligner sur quelque parti ou quelque personnalité politique que ce soit, a tout de même, on faut bien le dire, accompagné la montée en puissance de Tony Blair, puis les gouvernements du New Labour, en alimentant leurs réflexions théoriques. Goodhart avoue d'ailleurs dans son livre avoir appartenu au Parti travailliste à cette époque. Son départ de la direction du magazine en 2010 a coïncidé avec la défaite du New Labour. Alors dans son dernier livre dont je vous parle, David Goodhart enquête sur les causes idéologiques et sociologiques du Brexit et de l'élection de Donald Trump. À ses yeux, ces deux événements sont liés et ils témoignent de phénomènes fort comparables. Car ces votes protestataires constituent en effet la revanche du peuple de quelque part, furieux de n'avoir jamais eu réellement voix au chapitre ces dernières années. Ce sont en effet les gens de n'importe où qui dominent la vie politique, les médias et l'université. Ayant progressivement conquis l'hégémonie culturelle, ils ont imposé une idéologie qui sert leurs intérêts. Ce que David Goodhart, après d'autres, nomme d'ailleurs le double libéralisme. Alors il s'agit d'un libéralisme culturel venu des années 60 qui a ébranlé toutes les structures d'autorité et un libéralisme économique imposé à partir des années 80 avec la prééminence accordée au marché sur les régulations étatiques. Progressivement, tout ce qui contestait ce double libéralisme a été chassé de la scène publique, exclu. Dans un premier temps, le centre-gauche politique ne s'est que trop bien adapté à cette double révolution. Ainsi, Tony Blair présentait-il la mondialisation et l'immigration de masse comme des phénomènes quasi naturels face auxquels il n'y avait d'autre issue pour les Britanniques que de s'adapter. Mais aujourd'hui, les partis sociaux-démocrates sont partout dans la nasse, car leurs électeurs appartenaient autrefois au peuple de quelque part et celui-ci estime qu'il a perdu à ces changements rapides et radicaux. Ainsi, 62% des Britanniques approuvent l'opinion. Le pays a tellement changé dans les dernières années qu'il est devenu méconnaissable et cela provoque en moi un malaise. Pourtant, le peuple de quelque part ne remet pas en cause la totalité des acquis de cette double révolution libérale. Il voudrait seulement que les élites qui la pilotent en ralentissent le rythme. La rapidité avec laquelle les sociétés ont été bouleversées par une immigration sans précédent a créé chez lui une anxiété culturelle. Ses membres réclament un accord général sur des normes de comportement communes. David Goulart qualifie leur idéologie, je le cite, de « populisme de la décence » et je reviendrai sur son livre demain parce qu'il est très intéressant.
Son livre, donc, Brice Couturier, « The Road to Somewhere », qui n'est pas encore traduit en français. Merci beaucoup, Brice Couturier. On peut bien sûr retrouver votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.